De l'idéologie marchande nativiste et de sa diffusion. Autrement dit, le social-nativisme a toutes les chances de déboucher en pratique sur la promotion d'une idéologie de type marchande-nativiste. Dans le cas du trumpisme, il s'agit d'un choix clairement assumé. Lors de la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump a certes tenté de se donner une dimension sociale, en se décrivant comme le meilleur défenseur des travailleurs états-uniens, victimes de la concurrence sauvage du Mexique et de la Chine, abandonnés par les élites démocrates. Mais les solutions proposées par l'administration Trump, outre les mesures nativistes plus ou moins classiques, réduction des flux migratoires, construction d'un mur, soutien au Brexit et au gouvernement européen de type nativiste, ont surtout consisté à se lancer dans une véritable fuite en avant vers le dumping fiscal en faveur des plus riches et des plus mobiles. En 1986, le Tax Reform Act, promu par Reagan, avait mis l'accent sur la baisse de la progressivité de l'impôt sur le revenu, avec un taux supérieur réduit à 28%, qui sera par la suite relevé autour de 35-40% sous Bush et Clinton, mais qui ne reviendra jamais au niveau précédent. La réforme fiscale négociée par Trump avec le Congrès en 2017 se situe dans cette lignée et pousse la logique plus loin, en se concentrant sur les baisses d'impôts bénéficiant aux entreprises et aux entrepreneurs. Le taux de l'impôt fédéral sur les bénéfices des sociétés, qui était de 35% depuis 1993, fut abaissé subitement à 21% en 2018, avec à la clé une amnistie pour les profits rapatriés, une chute de quasiment de moitié des recettes fiscales en question, et très probablement une relance de la compétition mondiale à la baisse de cet impôt pourtant essentiel pour les finances publiques. Par ailleurs, Trump a obtenu la création d'une réduction de l'impôt sur le revenu, spécifiquement destinée aux entrepreneurs non salariés, tels que lui-même, dont les bénéfices, business income, seront désormais imposés au taux maximal de 29,6% contre 37% pour les plus hauts salaires. L'impact combiné de ces deux mesures est que le taux d'imposition des 0,01% des contribuables les plus fortunés, et particulièrement celui des 400 contribuables les plus importants, est pour la première fois passé au-dessous de celui des contribuables situés moins haut dans le centile et le millième supérieur, tout en se rapprochant fortement du taux effectif d'imposition acquitté par les 50% les plus pauvres. Trump souhaitait également obtenir la suppression complète de l'impôt progressif sur les successions, mais il n'a pas été suivi par le Congrès sur ce point. Il est particulièrement frappant de constater la similarité entre les réformes fiscales que les nouveaux présidents Trump et Macron ont tous deux fait adopter fin 2017. En France, outre la suppression de l'impôt sur la fortune, ISF déjà évoqué, le nouveau gouvernement a fait voter une baisse graduelle de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25%, ainsi que la mise en place d'un taux réduit d'impôt sur le revenu de 30% pour les dividendes et intérêts, en lieu et place des 55% applicables au plus haut salaire. Le fait qu'un gouvernement réputé nativiste, comme l'administration Trump, mène au final une politique fiscale aussi proche de celle mise en place sous un gouvernement supposément de sensibilité plus internationaliste, comme le gouvernement Macron, montre une convergence considérable des idéologies et des pratiques politiques. Les termes peuvent varier. Trump évoque les « job creators », alors que Macron préfère parler des premiers de cordée. Mais au fond, les deux développent une idéologie selon laquelle la concurrence de tous contre tous exigerait que l'on offre des réductions fiscales toujours plus importantes aux contribuables les plus mobiles et que les masses chérissent ces nouveaux bienfaiteurs qui leur apportent tant de bien-être et d'innovation, quitte à oublier au passage que rien de tout cela n'existerait sans les systèmes publics de formation et de recherche fondamentales et les appropriations privées de connaissances publiques. Ce faisant, chacun des deux gouvernements prend le risque de renforcer la tendance à la montée des inégalités et le sentiment d'abandon des classes populaires et moyennes face à la mondialisation. Le président états-unien pense s'en sortir en insistant sur le fait qu'il contrôle beaucoup mieux les flux migratoires que ses opposants démocrates et qu'il est beaucoup plus vigilant que ces derniers vis-à-vis des concurrences commerciales déloyales venant du reste du monde. Il parvient également avec habileté à présenter les job creators comme autrement plus utiles que les élites intellectuelles du Parti démocrate dans la grande guerre économique mondiale que les États-Unis mènent avec le reste de la planète. les élites intellectuelles, sont sans cesse dénoncées comme condescendantes et donneuses de leçons, toujours promptes à inventer de nouvelles lubies culturelles plus ou moins dangereuses pour les valeurs et la société états-unienne. Trump s'évertue notamment à dénoncer la nouvelle passion climatique, inventée selon lui par les scientifiques, les démocrates et tous les peuples jaloux qui entourent le pays pour nuire à la grandeur de l'Amérique. Cet anti-intellectualisme est également utilisé par d'autres gouvernements nativistes en Europe et en Inde, ce qui montre au passage l'importance cruciale d'une plus grande diffusion de l'éducation et d'une meilleure appropriation citoyenne des connaissances scientifiques. On notera qu'en Italie, le M5S et la Lega se sont également accordés sur des mesures anti-vaccins, les vaccins étant associés aux élites « je sais tout » et aussi aux laboratoires pharmaceutiques rapaces. Le PIS en Pologne ou le BJP en Inde s'opposent régulièrement aux chercheurs, accusés de malmener l'identité polonaise ou hindoue éternelle avec leurs fouilles et leur remise en cause des certitudes les mieux établies. Les attaques de Bolsonaro contre les chercheurs brésiliens relèvent également de ce même mouvement. Le président français fait le pari inverse. Il espère se maintenir au pouvoir en repoussant ses opposants vers le nativisme et l'antimondialisme, et en misant sur l'attachement majoritaire des électeurs français à la tolérance et à l'ouverture, qui empêchera les Français, le moment venu, de choisir la voie sociale nativiste, qui en pratique aurait de toute façon toutes les chances de se transformer en voie marchande nativiste à la Trump. Au fond, les deux idéologies font le pari qu'il n'existe pas d'alternative au dumping fiscal en faveur des plus riches, et que la seule dimension de différenciation politique qui demeure porte sur le clivage internationaliste-nativiste. Ce clivage, apparaissant lui-même comme largement factice à la lumière des politiques migratoires et climatiques réellement menées par le gouvernement français. Chacune de ces deux idéologies repose sur une simplification abusive de la réalité et une bonne dose d'hypocrisie. D'une part, des politiques de redistribution ambitieuses peuvent encore être menées au niveau national, y compris dans des États-nations de petite taille comme les pays européens. A fortiori, au niveau des États-Unis, le gouvernement fédéral a parfaitement les moyens de faire respecter ses décisions en matière fiscale pour peu qu'il en ait la volonté politique. D'autre part, rien n'interdit de développer des coopérations internationales, en particulier sur le plan fiscal, visant à promouvoir un modèle de développement plus équitable et plus durable. De la possibilité d'un social-fédéralisme en Europe. Pour sortir du piège social-nativiste, la solution la plus naturelle serait de développer une forme de social-fédéralisme, consistant à s'appuyer sur l'internationalisme et le fédéralisme démocratique pour promouvoir la redistribution des richesses et la justice sociale. Je n'ignore pas que la voie est étroite. L'hypothèse d'une refondation apaisée et harmonieuse de l'Europe n'est malheureusement pas la plus probable, et il est sans doute plus réaliste de se préparer à des évolutions passablement chaotiques, avec des crises politiques, sociales et financières de toute nature, qui peuvent entraîner des risques de décomposition de l'Union européenne ou de la zone euro. Mais, quelles que soient les crises à venir, il faudra de toute façon reconstruire. Personne n'envisage de retourner à l'autarcie, et il faudra donc de nouveaux traités organisant les relations entre les pays, si possible de façon plus satisfaisante que les traités actuels. Je vais ici me concentrer sur la possibilité d'un social-fédéralisme dans le contexte européen. Nous verrons toutefois que les leçons ont une portée plus générale, d'une part parce que les politiques fiscales et sociales adoptées en Europe peuvent avoir un impact important sur les autres parties du monde, et d'autre part, car les formes de coopération transnationale évoquées ici peuvent potentiellement s'appliquer à d'autres ensembles régionaux, par exemple en Afrique, en Amérique latine ou au Moyen-Orient, et réguler les relations entre ensembles régionaux. L'Union européenne, UE, constitue une tentative sophistiquée et inédite visant à organiser une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens. En pratique, cependant, les institutions européennes, telles qu'elles ont été établies par couches successives depuis le traité de Rome 1957, instituant la CEE jusqu'au traité de Maastricht 1992, établissant l'Union européenne et au traité de Lisbonne, 2007, qui en a fixé les règles actuelles, ont surtout eu pour objectif d'organiser un grand marché, garantissant la libre circulation des biens, des capitaux et des travailleurs sans politique fiscale et sociale commune. Rappelons les principes essentiels de fonctionnement de ces institutions. De façon générale, les décisions prises par l'Union européenne, qu'il s'agisse de règlements, de directives ou d'autres actes législatifs de toute nature, doivent, pour entrer en vigueur, être adoptées par les deux instances partageant le pouvoir législatif en Europe. D'une part, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui se réunit également au niveau ministériel, suivant la nature des questions traitées dans les différents textes et directives, Conseil des ministres des Finances, Conseil des ministres de l'Agriculture, etc. Et, d'autre part, le Parlement européen, qui est élu au suffrage universel depuis 1979 et qui représente les États membres en fonction de leur population, avec toutefois une surreprésentation des plus petits pays. Les décisions sont préparées et appliquées par la Commission européenne, qui agit comme une sorte de pouvoir exécutif et de gouvernement européen, avec à sa tête un président de la Commission et des commissaires en charge des différents domaines, nommés par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, dont les nominations doivent être approuvées par le Parlement. Formellement, l'ensemble a l'aspect d'une structure parlementaire fédérale de type classique, avec un pouvoir exécutif et deux chambres législatives. Deux particularités rendent cependant le système très différent des structures habituelles. Il s'agit d'une part de la prégnance de la règle de l'unanimité, et d'autre part du fait que le Conseil des ministres est en tout état de cause une structure totalement inadaptée pour abriter un processus de délibération parlementaire pluraliste et démocratique. Il faut tout d'abord rappeler que la plupart des décisions importantes exigent l'unanimité du Conseil des ministres. C'est le cas notamment pour tout ce qui concerne la fiscalité, le budget de l'Union européenne, ainsi que les systèmes de protection sociale. Concernant la régulation du marché intérieur, la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes, et les accords commerciaux avec le reste du monde, qui sont au fond les seules décisions communes sur lesquelles s'est bâtie la construction européenne, c'est la règle de la majorité qualifiée qui s'applique. La règle de la majorité qualifiée est définie de la façon suivante. Une décision est adoptée si elle est soutenue par 55% des pays représentant au moins 65% de la population de l'Union européenne. Mais dès lors qu'il s'agit d'envisager de mettre en place des politiques fiscales, budgétaires et sociales communes, et en particulier dès que les finances publiques des États membres sont en jeu, c'est la règle de l'unanimité qui prévaut. Concrètement, cela signifie que tous les pays disposent d'un droit de veto. Par exemple, si le Luxembourg, qui comprend environ 500 000 habitants, soit à peine 0,1% de la population de l'UE, 510 millions, souhaite pouvoir taxer les profits des entreprises à un taux de 0% et siphonner ainsi l'assiette fiscale de ses voisins, personne ne peut l'en empêcher. Chaque pays, qu'il s'agisse du Luxembourg, de l'Irlande, de Malte ou de Chypre, aussi petit soit-il, peut bloquer n'importe quelle mesure fiscale qui se présente. Comme les traités garantissent par ailleurs la libre circulation absolue des capitaux et des investissements, sans aucune obligation de coopération fiscale, toutes les conditions sont réunies pour une course-poursuite sans fin vers le dumping en faveur des acteurs les plus mobiles. C'est d'ailleurs cette absence de tout impôt commun et de véritables budgets communs qui fait que l'Union européenne s'apparente davantage à une union commerciale ou une organisation internationale qu'à un véritable gouvernement fédéral. Aux États-Unis ou en Inde, le gouvernement central s'appuie sur un bicaméralisme lui permettant de lever des ressources au service d'un projet collectif. Alimenté notamment par des impôts fédéraux pesant sur les revenus, les successions et les bénéfices des sociétés, le budget fédéral représente dans les deux cas autour de 15-20% du produit intérieur brut, contre à peine 1% pour le budget de l'Union européenne qui, faute de fiscalité commune, s'appuie sur les versements des États à l'issue d'une décision prise à l'unanimité des pays. De la construction d'un espace démocratique transnational. La question est de savoir comment il est possible de sortir de cette situation. Une première possibilité serait d'étendre aux questions fiscales et budgétaires la règle de la majorité qualifiée. Passons sur le fait qu'il ne serait sans doute pas simple de convaincre les petits pays de perdre leur droit de veto fiscal. Il faudrait sans doute, pour en arriver là, qu'une coalition de pays exerce une pression extrêmement forte sur les autres et les menace de sanctions significatives. mais en tout état de cause, que l'on parvienne à imposer la règle de la majorité aux 28 États membres, bientôt 27 si le Royaume-Uni confirme son Brexit, ce qui est encore incertain, ou que l'on se contente de l'appliquer au sein d'un plus petit club de pays décidés à aller de l'avant, le problème est que le Conseil des ministres des Finances, ou des chefs de gouvernement, constitue une instance totalement inadaptée pour développer une véritable démocratie parlementaire européenne. La raison en est simple. Cette instance, composée d'un seul représentant par pays, est une machine à dresser les intérêts nationaux, ou perçus et construits comme tels, les uns contre les autres, et en aucune façon à permettre une délibération pluraliste et la construction de majorités d'idées. Concrètement, au sein de l'Eurogroupe, le Conseil des ministres des Finances des 19 États membres de la zone euro, le ministre allemand des Finances représente à lui seul 83 millions de citoyens, le ministre français 67 millions, le ministre grec 11 millions, et ainsi de suite. Dans ces conditions, il est tout simplement impossible d'avoir une délibération apaisée. En particulier, les représentants des plus grands pays ne pourraient se permettre de se faire mettre publiquement en minorité sur une décision fiscale ou budgétaire dont ils estiment qu'elle engage leur pays de façon importante. Le résultat est que les décisions au sein de l'Eurogroupe, et plus généralement des instances européennes composées de ministres ou de chefs d'État et de gouvernement, sont presque toujours prises à l'unanimité, sous le couvert du consensus, et dans le cadre de délibérations qui se font systématiquement à huis clos. Ajoutons que ces instances ne connaissent aucune des règles qui fondent la démocratie parlementaire. Il n'existe ainsi aucune procédure régissant les amendements et les débats, les temps de parole et les votes, et ainsi de suite. L'idée selon laquelle une telle instance pourrait un jour se retrouver à délibérer et à adopter les lois fiscales s'appliquant à des centaines de millions de personnes n'a guère de sens. On sait depuis fort longtemps, au moins depuis le XVIIIe siècle et les révolutions atlantiques, que le vote de l'impôt est la compétence parlementaire par excellence, et que l'établissement patient des règles fiscales, des assiettes et des taux, exige une délibération publique et contradictoire sous le regard des citoyens et des journalistes. Il faut pour cela que la pluralité des opinions au sein de chaque pays soit pleinement et largement représentée. Par définition, un Conseil des ministres des Finances ne remplira jamais de telles conditions. Rappelons également que les décisions à huis clos et à contre-temps prises par l'Eurogroupe après la crise financière de 2008-2009 expliquent la rechute absurde de l'activité économique européenne en 2011-2012, dont l'Europe se remet à peine. Pour résumer, les instances européennes actuelles, qui sont bâties autour du rôle central et dominant joué par les conseils ministériels et qui cantonnent le Parlement européen dans un rôle secondaire, ont été conçues pour réguler un grand marché et pour conclure des accords intergouvernementaux. Elles n'ont absolument pas été conçues pour adopter des politiques fiscales et sociales. Une seconde possibilité, qui est généralement soutenue par les responsables politiques européens les plus convaincus par la perspective fédéraliste, serait de transférer entièrement le pouvoir de voter l'impôt au Parlement européen. Élu au suffrage universel direct, soumis aux règles habituelles de publicité et d'organisation des débats propres aux enceintes parlementaires et prenant ses décisions suivant la règle de la majorité, le Parlement européen est de toute évidence une enceinte nettement plus adaptée pour adopter des impôts et des budgets. Pourtant, même si cette solution est nettement plus satisfaisante que le dispositif actuel, elle pose également plusieurs difficultés. Il importe de bien évaluer tout ce qu'elle implique et pourquoi elle a sans doute peu de chances de voir le jour. Notons tout d'abord qu'une démocratie européenne viable exigerait en tout état de cause une refonte complète des règles de transparence et d'organisation des lobbies qui caractérisent actuellement la vie politique bruxelloise et qui posent de très sérieux problèmes. Ensuite, il faut prendre conscience du fait qu'un tel transfert de souveraineté fiscale au Parlement européen impliquerait que les institutions politiques des États membres ne seraient pas représentées directement dans le vote de l'impôt européen. Une telle perspective n'est pas nécessairement problématique en soi, et elle existe d'ailleurs dans d'autres contextes, mais elle mérite néanmoins un examen attentif. Aux États-Unis, le budget et les impôts fédéraux, ainsi que l'ensemble des lois fédérales, doivent être adoptées par le Congrès fédéral, dont les membres sont élus pour cela et ne représentent pas directement les institutions politiques des États membres. En l'occurrence, dans le système états-unien, les textes doivent être adoptés dans les mêmes termes par les deux chambres du Congrès. la Chambre des représentants, est composée en proportion de la population des États membres, alors que le Sénat comprend deux représentants que chaque État membre élit à cet effet, quelle que soit sa taille. Ce système, où aucune des deux chambres n'a l'ascendant sur l'autre, n'est pas un modèle du genre, et il conduit fréquemment à des blocages. Mais il fonctionne à peu près, en particulier grâce au fait qu'il existe un certain équilibre entre la taille des différents États. En Inde, il existe également deux chambres, la Lok Sabha, chambre du peuple, élue directement par les citoyens, avec des circonscriptions soigneusement découpées afin d'assurer sur tout le territoire une représentation proportionnelle à la population, et la Rajya Sabha, chambre des États, dont les membres sont élus au suffrage indirect par les législatures des États et territoires de l'Union indienne. Les lois doivent en principe être adoptées dans les mêmes termes par les deux chambres. Mais en cas de désaccord, il est possible de les réunir pour adopter le texte final, ce qui en pratique donne un net avantage à la Lok Sabha compte tenu de sa supériorité numérique. Cette procédure de réunion jointe n'a été utilisée que trois fois depuis l'adoption de la Constitution de 1950. Surtout, s'agissant des lois fiscales et budgétaires, Money Bills, la Lok Sabha a automatiquement le dernier mot. Rien n'interdit d'imaginer une solution similaire en Europe. Le Parlement européen pourrait avoir le dernier mot pour adopter des impôts européens et un budget financé par ces impôts. Il existe cependant deux différences essentielles qui rendent une telle solution peu satisfaisante. Tout d'abord, il est peu probable que les 28 États membres de l'Union européenne acceptent une telle délégation de souveraineté fiscale, au moins dans un premier temps. Il faudrait donc que les pays souhaitant aller de l'avant constituent une sous-chambre au sein du Parlement européen. Ce n'est pas impossible, mais cela exige, là encore, d'assumer une rupture assez nette avec les autres pays. Ensuite, et surtout, à supposer que les 28 pays soient d'accord, ou qu'un sous-groupe de pays soit prêt à aller de l'avant, la différence centrale avec les États-Unis ou l'Inde est que les États-nations européens préexistent à l'Union européenne. En particulier, cela implique qu'ils sont libres de ratifier ou de dénoncer des traités internationaux par l'intermédiaire de leur parlement national. Ces parlements nationaux, le Bundestag en Allemagne, l'Assemblée nationale en France, etc., votent en outre depuis des décennies, parfois depuis le 19e siècle, des impôts et des budgets qui ont atteint au fil du temps une ampleur considérable de l'ordre de 30-40% du produit intérieur brut. Ces prélèvements, débattus et votés par ces instances, ont permis de mettre en place des politiques sociales et éducatives et un modèle de développement inédit dans l'histoire, et qui, dans leur ensemble, ont été un immense succès historique. Ils ont permis aux pays européens d'atteindre les plus hauts niveaux de vie observés dans l'histoire, le tout en limitant l'ampleur des inégalités, tout du moins par comparaison aux États-Unis et aux autres régions du monde, et en favorisant une relative égalité d'accès à la santé et à l'éducation. Ces parlements nationaux et les budgets et impôts qu'ils adoptent actuellement vont continuer d'exister, au moins pour une très large part. Personne ne pense qu'il pourrait être collectivement souhaitable de tout décider à Bruxelles et que le budget de l'Union européenne pourrait ou devrait subitement passer de 1 à 40% du PIB et remplacer les budgets des États, pas plus que ceux des régions, des communes ou des caisses de sécurité sociale. De la même façon que pour le régime de propriété, qui doit être décentralisé et participatif, l'organisation idéale du régime politique et du système de frontières doit s'appuyer autant que possible sur la décentralisation et la mobilisation des acteurs à tous les niveaux.